Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, Laurent Decaune, bonjour. Maintenant, nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes donc avocat au barreau de Toulouse. Vous exercez depuis quelques années. Le temps passe très vite, n'est-ce pas? Et nous parlons donc du droit en général, des procès en particulier, des plaidoiries. Et quand j'ai préparé cette émission, je me suis arrêtée sur ce qu'on attendait des avocats. Et je me suis dit, mais ce sont des saints. Alors, il faut qu'ils fassent preuve, et c'est tant mieux, mais ça, de dignité. Bon, c'est votre cas, mon cher.
Merci.
De conscience, d'indépendance, de probité, d'humanité. Je pense qu'il faudrait l'exiger de tous les métiers, n'est-ce pas? En même temps, on parle, alors là, on parle d'obligation en vertu de leur déontologie, toujours, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie, de confraternité, ce point, ça, bien sûr, de modération, de compétence, oui, de dévouement, de diligence, de prudence. Ah, écoutez.
Oui, je confirme.
Vous confirmez, hein, tout ça.
Je confirme que tout ceci est exigé de nous à juste titre.
Oui, bien sûr.
C'est la moindre des choses. Ce sont les vertus élémentaires d'un métier qui repose sur la confiance et qui a une fonction sociale majeure.
Bien sûr.
Être l'intermédiaire entre le justiciable et la justice. Ça nécessite une grande force de caractère et une grande honnêteté.
Bien sûr. En fait, un avocat n'a pas une obligation de résultat, mais en revanche, une obligation de moyens mis en œuvre.
Oui, c'est exactement cela. C'est comme les médecins, d'ailleurs.
Oui.
Nous ne sommes pas comptables du résultat. Le résultat nous échappe.
Oui.
Le résultat,
oui.
C'est
ce n'est pas vous,
le jugement.
Oui.
Voilà. Mais nous sommes comptables des moyens que nous avons mis en œuvre pour obtenir un bon résultat ou le résultat le moins mauvais possible. Voilà. Donc c'est dans cette mesure que notre responsabilité peut être engagée et l'air du temps fait que les responsabilités des professionnels, et notamment des professionnels de justice, sont de plus en plus souvent mise en jeu par les justiciables qui ont le sentiment d'avoir de plus en plus de droits et de plus en plus de raisons de mettre leurs droits en œuvre et de plus en plus le sentiment de connaître les choses au point de pouvoir remettre en question.
C'est général. Hein.
Oh, c'est terrible.
C'est général. Un patient, c'est plus qu'un médecin. Un élève, c'est plus que son professeur.
Ouais.
Et vous voyez, le contexte.
Il y a un danger social là,
oui,
qui se manifeste.
Voilà.
Mais c'est l'ère du temps, c'est l'évolution de la société.
Alors, j'aurais aimé voir cette pièce qui a été jouée par Richard Berry. On dit une pièce, mais en fait, ce sont des plaidoiries, 5 plaidoiries, qui sont connues. Il y a celle de Bobigny avec Gisèle Halimi, qui était assez extraordinaire. Après, enfin, il y en a eu plusieurs. Vous en avez entendu parler de cette pièce,
oui,
non?
Oui, oui. Mais je n'ai pas vu.
Ben non, je crois qu'elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue à Toulouse.
Et non, nous sommes
voilà,
en province.
On est trop loin. Et il y a des films également. Bon, il y a l'Hermine avec Lucchini. Il y a Intime Conviction, où justement, c'est le cas d'une affaire très connue à Toulouse, qui s'est terminé par un acquittement ou un non-lieu, je ne sais pas.
Un acquittement.
Un acquittement.
Deux acquittements,
deux
en première instance et en appel.
Du professeur Viguier, Jacques Viguier, dans laquelle vous avez participé, et également Maître Dupond-Moretti, non?
Il y avait Henri Leclerc en première instance.
Ah oui.
Et Éric Dupond-Moretti en appel. Il y avait deux équipes de défense
Éric
différentes.
Éric Leclerc étant un de vos associés.
Henri Leclerc?
Non, 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 pardon, je confonds. Oui, je dis une bêtise, là.
Non, il y avait Henri Leclerc en première instance.
Oui, d'accord.
Avec Maître Catala. Et ensuite, Éric Dupond-Moretti avec Jacques Lévy.
D'accord. Voilà, alors bon, donc dans ce film, il y a intégralement prononcé par Gourmet, je ne sais plus quel est son prénom,
Olivier
très,
Gourmet,
bon acteur,
très bon acteur,
la plaidoirie de Dupont-Moretti, qui était extraordinaire.
Oui, alors je ne sais pas si c'est mot pour mot ce qu'a plaidé Éric Dupont-Moretti, mais ça s'en rapproche, et effectivement, il avait été excellent, et excellent sans rupture, sans avoir élevé la voix. Il a fait une plaidoirie très douce, très intelligente, très psychologique.
Oui. Alors, Laurent de Cosne, quels sont les avocats du passé, peut-être actuels, que vous admirez, que vous appréciez?
Alors, moi, personnellement,
oui,
j'ai admiré profondément deux très grands avocats toulousains qui s'appelaient Philippe Lamouroux et Alain Furbury, qui étaient des personnages magnifiques, très, très vivants, très puissants, très chaleureux, très, très insupportables par moments.
De fortes personnalités.
De très fortes personnalités, et qui étaient des avocats fantastiques. Voilà, ils ont marqué leur époque. On a donné d'ailleurs leur nom à une des salles des salons de l'avocat. Ils ont laissé une très forte empreinte dans ma génération, qui maintenant est quand même en voie de disparition. Mais j'aimerais qu'on se souvienne d'eux plus souvent.
Vous voyez, le regret de ne pas enregistrer longtemps après, évidemment, écouter dans les années qui suivent, bon, peut-être qu'il ne faut pas, mais longtemps après, ça fait partie de l'histoire.
Oui, mais je ne sais pas ce que ça donnerait quelques années après. Les vieux films datent parce que le ton, la tonalité n'est pas la même que maintenant.
Sarah Bernhardt, c'est une catastrophe,
les enregistrements c'est qu'on vrai. Peut avoir. On a des enregistrements d'Apollinaire, lisant Le Pont c'est Mirabeau, vrai. C'est une catastrophe.
Absolument.
Paul Valéry, lisant Le Cimetière Marin, c'est une catastrophe. Donc, on ne sait pas ce que ça peut donner.
La mode évolue.
Voilà, donc,
alors, à part ces deux personnalités.
Il y a, alors, bien sûr, celle de mon père et celle de mon oncle Paul de Bordeaux, ça qui était vraiment des avocats splendides. Voilà. Ouais. Bon. Ensuite, oui, j'ai beaucoup entendu de grands avocats. Henri Leclerc, qui vient de nous quitter,
oui,
qui avait un style
très,
très, très délicat et très intéressant. Pas mal d'avocats parisiens. Oui, il faut se nourrir de ce que font les autres, mais on comprend que ce n'est facile pour personne. Je n'ai jamais vu un avocat pour qui la plaidoirie était facile, était un exercice presque mécanique. Ils étaient tous dans une action pleine d'angoisse, de doute et de remise en question. À chaque fois, c'était extrêmement douloureux, ce qui, d'ailleurs, faisait sans doute leur force.
Oui.
Voilà, ce sont les grandes figures toulousaines, en tout cas, qui m'ont marqué plus que les avocats parisiens.
D'accord. Oui, alors moi, j'ai en tête, j'avais noté des phrases qui m'ont frappé. Maître Francis Pisner. Alors lui, c'est un Parisien.
Oui.
Ah oui. Je suis seul contre tous et il faut être là. Et ça rejoint ce que vous disiez. Vous êtes là pour aider, venir en aide.
Ah oui, on est en aide. On vient en aide à une personne qui est seule contre tous. Ça, c'est
oui,
un,
mais
c'est
alors
un
quand
fait.
Vous savez quand même qu'elle a pu commettre des atrocités, ça, vous allez au-delà de ça.
Oui.
Ça
oui,
demande une force de caractère pour
mais
le coup.
Non, parce que je ne juge pas.
Ben oui, mais quand même, quelqu'un qui s'est attaqué, disons à un enfant, évidemment, on pense toujours à ça, c'est quand même...
L'inhumain fait partie de l'humain, c'était une phrase d'Alain Furbury, qu'il avait notamment dite lorsqu'il défendait Van Geloven, qui avait tué deux petites filles à Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, l'inhumain fait partie de l'humain, mais c'est l'humain qui l'emporte. Et les criminels sont souvent des personnes sympathiques. Ça n'a... La participation qu'ils ont pu avoir dans un crime avec une conscience X ou Y qu'on ne peut pas bien définir de la position où nous sommes n'enlève rien au fait que ce sont des êtres humains quelquefois sympathique, quelquefois antipathique, comme tous les autres.
Bien sûr, oui, d'accord. Paul Lombard, par exemple, encore un Parisien, parlait...
Marseillais, parisien.
Oui, c'est vrai, oui, avec l'accent. Hein. Parlait de l'atmosphère de mise à mort, ça c'était au moment où justement il y avait la peine de mort à la clé de maintenant, bon, grâce à Badinter, c'est terminé. Est-ce que ça aussi, vous l'avez connu?
Alors moi je suis arrivé après, j'ai prêté serment en 1978, donc juste avant l'abolition de la peine de mort, mais j'ai pas eu de procès criminel, j'étais tout jeune, avant l'abolition de la peine de mort. Mais j'ai assisté à la dernière peine de mort prononcée à Toulouse, dans l'affaire Keller et Horneck, qui étaient accusés d'avoir assassiné des touristes anglais. Et j'étais étudiant, j'étais là lorsque le verdict a été prononcé. C'était assez glaçant. C'est un dossier dans lequel il y avait Furbury et Lamouroux. Il y avait Pollack aussi, le grand avocat marseillais, que j'avais vu plaider à cette occasion, qui avait plaidé sur la peine de mort.
Oui. Alors effectivement, il y a ceux qui ont participé à l'abolition de la peine de mort. Il y a également Gisèle Halimi qui disait « Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé librement de votre corps ?» Elle disait ça. Il fallait oser à l'époque.
C'était prémonitoire parce que c'est ce qui se passe maintenant la plupart du temps. Des hommes qui ont disposé de leur corps et un peu du corps des autres, peut-être, comparaissent devant des formations féminines.
Oui, tout à fait. Et alors, quant à vous, quelles sont vos affaires, les affaires dont vous vous êtes occupé, qui vous ont marqué, passé, bien entendu, parce que j'imagine qu'on ne parle pas des affaires en cours.
Alors, l'affaire qui m'a le plus marqué au fond de ma conscience, c'est ce qu'on appelait l'affaire Allègre numéro 2. C'était pas sur le plan de l'intensité criminelle à proprement parler, c'était sur l'ambiance qui l'a entouré, sur le déraillement des esprits de certains juges, des médias en général, des avocats considérés de façon globale, de toute la société toulousaine.
Ça a été un instant de folie.
Une folie collective, dont on subit encore les traces, bien qu'elle ait été occultée rétrospectivement par tous ceux qui y ont participé. Il y a un fort déni des Toulousains sur ce qui les a intoxiqués pendant de longs mois au moment de ce tourbillon. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a fait pas mal réfléchir et ça m'a donné beaucoup de réserves quant aux qualités humaines. Mais, bon. Mais sinon, les affaires criminelles qui m'ont marqué, l'affaire Jacomet, indiscutablement, puisqu'on est passé à côté d'un vrai drame judiciaire qui était préparé comme tel par la justice, ce qui m'a amené à la conviction que la justice n'est pas toujours de bonne foi. Mais bon, ça c'est... Mais on a évité le pire, et il a été acquitté, on l'a beaucoup secoué, menacé, des souffrances qui ont été rajoutées aux souffrances provenant des faits eux-mêmes.
C'était ce fameux... On parlait des crimes du Hoss.
Voilà, c'est l'affaire du Hoss. On l'a accusé d'avoir tué sa belle-sœur, son beau-frère.
Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez participé également à l'affaire du juge Borel qui a été assassiné en
1995 à Djibouti. C'est une affaire qui est toujours en cours. Le dossier n'est pas clôturé.
Voilà, oui. Il y a des affaires qui traînent.
Il y a des affaires qui traînent, mais là, c'est une affaire qui est compliquée par son côté international, par l'absence de coopération des autorités judiciaires et puis par le comportement négatif pendant très longtemps de la justice française, et on a du mal à s'en remettre.
En tout cas, Laurent Decaune, un grand merci de nous avoir éclairé sur le fonctionnement du droit, de la justice ou parfois le dysfonctionnement. Et merci de nous avoir consacré tout ce moment, tous ces instants.
Merci à vous.
Au revoir.